I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Super Laser Punch, le podcast où on parle de temps en temps, on se retrouve Johan et moi, Patrick, et on parle de trucs Marvel essentiellement, mais aussi de trucs avec des super, des lasers et des punchs. Je ne vais même pas faire l'intro avec toutes les langues, les accents différents, parce que Johan, j'ai un problème.
Je sais Patrick, je compatis.
Tu te souviens, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, on a dit aux auditeurs et aux auditrices, vous verrez, quand on revient pour parler de Secret Invasion, bah, si on revient toutes les semaines pour en parler, c'est parce que la série sera super. Et puis si on vient tous les deux ou trois épisodes, c'est que la série nous plaira un peu moins. Donc, en fonction du moment où on reviendra pendant la publication de la série, et bah, vous saurez si on aime ou pas. Elle s'est terminée, ouais. Il y a combien de temps ?
On a été obligé de prendre des vacances. On a dû prendre des vacances pour se ressourcer.
Pour respirer un peu. C'était fin juillet qu'elle s'est terminée. Ouais. Et donc, on est mi-août. Et j'aurais pu prendre plus de temps avant d'en parler. On va faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Et puis après, on aura quelques petits trucs. Je voudrais dire quelques mots aussi sur... alors, Blue Beetle, je ne l'ai pas encore vu, mais on va peut-être en parler. Scott Pilgrim, il y a une série qui arrive et il y a des punchs dans Scott Pilgrim, dans Ça va. On va aussi parler de notre regard sur Ninja Turtles, Teenage Years, Mutant Mayhem, qu'on n'a pas vu. Donc, on va juste... Puis, il y a Loki et The Marvels qui arrivent. Donc, on dira quelques mots sur tout ça. Mais l'essentiel, ça va être partie sans spoilers sur Secret Invasion et puis partie avec spoilers. Si vous êtes déjà déprimé, vous pouvez peut-être sauter cet épisode parce que ça risque d'encore plus vous mettre le moral à zéro. Je pense, enfin pour moi en tout cas, sans spoilers, qu'est-ce que tu en as pensé de cette série Secret Invasion ? On peut peut-être placer le décor avant. C'est quoi Secret Invasion ? À la base, c'est un event dans les comics qui est hyper important. Puisqu'il décrit une invasion des Skrulls dans le monde, enfin sur Terre, une invasion qui a commencé des années avant le début de l'event, où les Skrulls ont remplacé petit à petit différents membres de, alors des gouvernements sans doute, mais surtout des super-héros qu'on connaît depuis des décennies. Et c'est un événement qui est vraiment particulier parce qu'il y a, on va dire, la moitié des super-héros du monde qui ont été remplacés par des Skrulls, qui ont pris leur pouvoir et leur apparence. Et on le découvre au moment de l'event. Et c'est pas genre « Ah, mais qui est qui ?» C'est genre ça nous fait revoir tout ce qui s'est passé dans le monde depuis des années. Enfin, des années, on va dire des mois au moins. Et on ne sait pas qui est un Skrull et qui ne l'est pas, parce que ça fait des mois qu'on interagit avec eux sans s'en douter. Et donc, c'est même un peu difficile de dire « Alors toi, est-ce que tu sais ceci ou tu sais cela ?» Parce que si on ne l'a pas découvert jusqu'à maintenant, si on ne s'en est pas rendu compte jusqu'à maintenant que, j'en sais rien moi, au hasard, Spider-Man est en fait un Skrull, on ne va pas s'en rendre compte tout à coup, parce qu'on nous le dit, on nous dit qu'il y a des super-héros qui sont des Skrulls dans le monde. Donc ça provoque un gros event avec une guerre, etc., entre les plusieurs factions de super-héros, on découvre qui était qui, etc. C'est vraiment un event sympa, original, et qu'il était impossible de reproduire en série ou même en film, parce que tu vas pas avoir tous les... Enfin, ça aurait été un truc encore plus ambitieux qu'un Endgame ou un truc comme ça. Ça aurait été vraiment compliqué à refaire. Donc, on se doutait bien que la série télévisée modeste avec Samuel L. Jackson n'irait pas dans la même direction. C'est un peu comme Civil War, ça s'inspire de l'arc des comics, mais ça fait quelque chose d'assez différent. Ce dont on se doutait a priori. Et donc, série, 6 épisodes avec Samuel L. Jackson et à peu près personne d'autre. Il y a Don Cheadle qui est là sur 2 ou 3 épisodes avec un rôle, je dirais, relativement mineur. Et donc, la série part vraiment dans une direction assez différente, même si le thème de base d'invasion par des aliens qui peuvent changer de forme et prendre l'apparence de n'importe qui est respecté. Qu'est-ce que tu as pensé, donc, de cette série, sans spoiler, Johan ?
Alors, déjà, depuis quelques temps, à chaque fois que je repense à la série, je repense aussi à son budget absolument incroyable de 215 millions de dollars. Et forcément, tu quand tu annonces un tel chiffre, tu essayes quand même de retrouver ce budget quelque part dans la série. Et en fait, c'est difficile à justifier, quoi. Donc voilà. Donc.
C'est l'un des plus gros budgets de série de l'histoire ouais. des séries, surtout si on ramène par épisode. On imagine que si tu veux retrouver le budget, il faut aller regarder du côté du compte en banque de Samuel L. Jackson, je pense.
Ouais, je suis même pas sûr que ça suffise, en fait, tu vois, parce que je pense pas que ça justifie tout. Je pense vraiment qu'il y a eu du coup une ambition à un moment donné de faire un truc vraiment vraiment incroyable avec je sais pas l'image et tout ça. Et en fait, il y a pas grand chose, en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue, en fait, voilà, tu as bien posé le décor, c'est-à-dire qu'on s'attend quand même à un truc d'espionnage avec et surtout du un thriller, quoi, un truc qui nous donne des frissons, un truc où on se pose des questions sur qui est qui, instaurer une paranoïa et jouer avec justement des plot twists. C'est vraiment le scénario rêvé pour faire des cliffhangers de fin d'épisode assez complètement incroyables. On ne sait plus qui est qui, etc. Machin. Et en fait, tout ça n'existe pas du tout dans la série. En fait. Tout ça n'existe pas du tout dans la série. C'est écrit de manière très très linéaire.
Il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur dans le fond ou...
Alors attends, je sais ce qui se passe, je reviens tout de suite.
D'accord. Est-ce qu'il y a un Skrull derrière toi qui est en train de se sécher les cheveux avec un sèche-cheveux, peut-être?
Non, c'est un énorme ventilateur industriel bleu braqué sur moi. Voilà.
Oh, je suis désolé, je te fais...
Non, tout va bien, il ne fait pas trop, trop chaud ce matin. Okay. donc je disais, voilà, il y a rien en fait dans l'écriture, d'une part dans l'écriture qui se rapproche, on va dire, de ce qu'aurait pu être un pitch pareil. Ça, c'est une première chose. Et à l'image... C'est vraiment pareil, c'est-à-dire que c'est filmé de manière assez plate, quoi. C'est très fonctionnel, on filme les événements les uns après les autres. Et voilà, il n'y a pas... Voilà, y a, pour moi, en tout cas, il y a vraiment... J'ai rien ressenti vraiment tout le long, quoi. J'ai juste absorbé, finalement, les informations données petit à petit. Et j'ai trouvé ça vraiment le degré zéro de c'est palpitant pour rien du tout, quoi. Pour moi, il se passe rien. Et du coup, c'est un petit peu l'ennui. Je me remémore un peu ce qu'on a vu, nous, comme série, pas toujours heureuse côté MCU. j'ai pas ressenti un truc vraiment négatif, tu vois, sur le moment. C'est-à-dire que sur le moment, ça se regarde, c'est vraiment pas bien. C'est pas bien, mais ça se regarde. Si je compare à Moon Knight, que pour le coup, il y a vraiment des moments où j'ai trouvé ça vraiment déplaisant, quoi. Mais en fait, plus le temps passe, plus je réfléchis à cette série, et plus je vois bien qu'il n'y a rien qui va, quoi. Et je pense que c'est aussi un peu ton avis.
C'est effectivement le plus gros problème, au-delà des questions... de fans de comics et de super-héros. Au-delà de cette question, à laquelle on reviendra certainement peut-être un peu plus dans la partie spoiler, il y a une opportunité, même, c'est pas genre « Ah, ils ont trahi la série de comics et l'event et ils ont fait des choses trop différentes, donc je suis énervé parce que j'aime les comics. » C'est pas vraiment ça. Comme tu l'as très bien dit, il y a une opportunité avec... une race alien qui envahit le monde et qui veut on le comprend très vite, c'est pas un spoiler, mais qui veut en fait réussir à s'approprier la planète pour tout un tas de raisons, il y a l'opportunité d'en faire un thriller politique, un thriller d'un truc d'espionnage. Il y a vraiment une opportunité de faire quelque chose dans ce domaine, même sans vraiment avoir des histoires de super-héros, super-héroïques, incroyables, avec des combats, avec des pouvoirs, avec des machins. Il y a vraiment cette opportunité. Donc, je ne suis pas frustré parce qu'ils n'ont pas fait un truc de super-héros. Le problème, c'est qu'ils ont... Tu sens, à la base, on va dire, sur le premier ou deuxième épisode... l'intention de faire, comme pour chaque produit Marvel, tu te dis, bon, bah, quel style de production est-ce qu'ils vont faire ? Là, tu sens que c'est histoire d'espions de guerre froide. En gros, hein, ils commencent, ils sont en Europe de l'Est, on va dire ça comme ça, et tu sens qu'il y a cette intention. Mais ça se concrétise à aucun moment. C'est-à-dire que même cet aspect... qui n'est pas non plus hyper spécifique à des trucs de super-héros ou de Marvel, bah ça tombe à plat hyper vite. Je dirais que c'est moyennement réussi dans le premier épisode, et puis tout de suite, c'est complètement raté dans la suite. Donc la frustration ne vient pas juste de l'aspect super-héros, la frustration vient vraiment du fait que la qualité de... tous les aspects de la série, que ça soit la narration, l'écriture, la réalisation, l'ambiance, est ratée. Tout est raté. C'est pire que Moon Knight, qui était jusqu'à maintenant, à mon sens, la pire série Marvel. Et je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé à la fois Moon Knight et à la fois Secret Invasion, ou en tout cas, qui l'ont trouvé passable. Mais moi, je trouve ça criminel. Même pas de médiocrité. C'est vraiment l'une des rares fois où c'est pas juste médiocre, c'est mauvais. Moi, j'ai dû me forcer à regarder les épisodes au-delà du 1. J'ai vraiment dû me forcer à chaque fois. C'est la première fois que c'est à ce point-là et c'est pire que Moon Knight, effectivement. Parce que Moon Knight, encore, il se passait des trucs. Là, le pire, il ne se passe rien. C'est écrit avec une... comment dire ? L'écriture est honteuse parce que c'est bête du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils essayent de tacler des événements internationaux, et on en parlera dans les spoilers, des événements internationaux qui pourraient mener, qui pourraient dégénérer dans le style de thriller politique et de thriller d'espionnage, des trucs qui pourraient dégénérer. Tu sens qu'il y a des événements géopolitiques qui s'imbriquent, des dominos qui tombent, et tu te dis « Ah merde, ça pourrait aller ça et ça, et ça, ça se passe mal, et donc ça peut provoquer une guerre catastrophique, machin. » Mais t'as aucun enjeu qui va te provoquer ce genre d'émotion, parce que la manière dont c'est écrit, c'est, et là encore, je résume beaucoup pour ne pas spoiler, mais c'est genre « Oh mon Dieu, il y a des méchants ! Vite, vite, regardez, ceux-là sont méchants, ils sont vraiment méchants, vous voyez comme ils sont méchants !» Alors qu'en fait, c'est pas eux qui sont les méchants. Et la manière dont ils te font passer vraiment au plus haut niveau de décision des États, cette déception sur laquelle repose le destin du monde, le niveau de la déception, c'est « Mais regardez, enfin, ceux-là, ils sont méchants, clairement. C'est eux qui ont été méchants. Vous voyez pas qu'ils sont méchants ?» Et c'est face-palming à un niveau incroyable. Parce que c'est ça qui... Vas-y.
Tu parles des méchants, et puis il y a ça aussi, c'est que la caractérisation, justement, de ce groupe d'antagonistes... Et super, bah pareil, hein, paresseuse. On a l'impression de juste revoir, en fait, tu te souviens, Falcon and Winter Soldiers, le groupe de terroristes, tu sais, t'as l'impression que c'est un groupe d'ados, là, qui savent pas trop ce qu'ils font, un peu en mode hippie, là, ils vivent, machin. Et, bah, c'est le même groupe, en fait. C'est le même groupe. T'as un chef qui a, lui, sa motivation à lui, de belligérant, et les autres suivent, tu sais pas trop pourquoi, en fait, et ils suivent parce qu'il faut suivre, et c'est, voilà, et Il se passe même chez eux, il se passe pas grand chose. Ils sont un tout petit camp, ils sont cinq, tu comprends pas. Enfin, c'est
même
c'est
pire parce que
bizarre.
Dans Falcon et Winter Soldier, au-delà du fait qu'il y a eu la pandémie qui a poussé à la réécriture et tu pouvais te dire, bon, bah, ça excuse un peu, ou en tout cas ça explique un peu parce que ça a été réécrit au dernier moment. Les terroristes, bah, c'est un groupe de terroristes qui est un petit groupe qui essaye de faire ce qu'ils peuvent pour. Je ne sais pas, faire du terrorisme et faire valoir leur cause. Là, on est censé avoir un groupe qui manipule la géopolitique mondiale. Donc, c'est pire, le fait qu'ils soient effectivement quatre couillons dans leur campement et où ils se baladent. Tu vois, ils font rien, effectivement. Ils vont manger, ils vont se reposer. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de motivation politique au-delà du leader qui dit « Oh, nous sommes vraiment méchants, machin ». Bon, il y a deux autres thèmes que je voudrais aborder. Attends, deux, j'en vois un au moins. C'est ce parallèle avec la question des immigrés qui essayent de se trouver une identité, une place dans une société qui ne veut pas d'eux, qui, à mon sens, est complètement... C'est même pas sous-exploité, c'est inepte. Mais je me demande ce que tu en penses de ce thème qui aurait pu être intéressant ou traité de manière intéressante.
Bah oui, non, mais c'est juste que bah, du coup, on n'a rien vu de ces gens-là, en fait. Tu vois, enfin, je crois que la dernière fois qu'on a vu, alors, qu'on a vu des Skrulls, c'était pour leur introduction chez Captain Marvel. Mmh. Et donc, on réécrit un petit peu.
Il y avait Far From Home.
Oui, ouais.
Vite fait. Vite fait.
Ouais. Bah justement, tu vois, ça faisait partie des moments où on se disait « Ah oui, c'est vrai que tout le monde peut être un Skrull, etc. Mmh. » en fait. Bref, du coup, il n'y a pas... Tu vois, finalement, on se retrouve dans un schéma assez paresseux classique de, tu sais, de Malcolm X et Luther King, c'est-à-dire mmh. t'as celui qui veut faire de telle manière et l'autre qui veut tuer tout le monde et donc du coup c'est traité on va dire de manière plutôt classique pour Hollywood, mais non seulement classique mais en plus sans volume, quoi. C'est-à-dire que tu vois ouais. bien que les archétypes ouais, sur l'écriture des personnages, mais tu sens à aucun moment de vérité ou de, tu vois, ou d'honnêteté dans leur démarche, ou voilà, c'est clairement, je pense que les gens qui ont écrit ça sont pas du tout au fait de cette problématique et des enjeux que ça pose.
À poser le nom de Martin Luther King et Malcolm X tu vois, dans une comparaison à cette série, c'est insulter leur mémoire, quoi. C'est tellement honteusement fait que...
Et je veux dire, c'est que c'est vraiment... Tu retrouves le magnéto, professeur Xavier, enfin, ouais, c'est vraiment ça.
Pour être clair, Magneto et Xavier, c'est bien fait, généralement, dans les comics.
Oui.
Là, c'est... Bon. Et un autre truc que je voudrais mentionner et qu'on a évoqué avant de passer à la partie spoiler, c'est l'absence d'enjeu. Même quand il se passe des trucs qui devraient avoir une certaine résonance et un certain poids émotionnel, c'est tellement mal fait que ça tombe complètement à plat. Et vous verrez de quoi je parle si vous avez vu la série. Mais ça tombe complètement à plat. C'est tellement dommage de le faire comme ça que c'est frustrant et énervant de voir qu'ils l'ont fait comme ça. Et j'ajoute le ridicule des Skrulls qui... On sait que faire ces races d'aliens qui sont des ajouts prosthétiques au visage, c'est pas facile. Et que c'est casse-gueule. Et là, c'est casse-gueule et il se casse la gueule, quoi. C'est à chaque fois qu'on voit un Skrull dans sa forme de Skrull, ce qui va mener d'ailleurs à un autre problème dont on parlera dans la partie spoiler, mais eh ben, c'est ridicule et c'est impossible à prendre au sérieux. Et ça mène à un truc qui est, à mon avis, possiblement le pire aspect de la série, qui est non seulement que les acteurs... Il y a des bons acteurs dans la série qui n'arrivent à rien faire, parce que bah, c'est tellement mal écrit. À vrai dire, tout le monde se pâme devant Samuel L. Jackson. Moi, je trouve qu'il joue toujours le même personnage. Bien, mais je ne trouve pas que ça soit un acteur incroyable. Mais du coup, là, il réussit même pas à jouer ce qu'il joue d'habitude. Il est juste mauvais parce que il est écrit dans, enfin il a des scènes où il peut rien tirer des scènes, et en plus ses interactions avec les Skrulls sont ineptes parce que tu as énormément de mal à le prendre au sérieux quand il a une sorte de marionnette, pas de marionnette mais de truc bizarre avec des d'aliens. Ça marche pas, quoi, ça marche juste pas du tout.
Ouais, je sais pas, moi je trouve que y a, ça, moi c'est le seul truc que je sauve ou que j'ai de positif à dire sur la série, c'est que globalement il y a certains acteurs que je trouve assez cool là-dedans. Fury en fait partie, mais t'as raison, je pense pas que ça soit non plus à tomber par terre. Et Olivia Colman, que bon, voilà, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, et du coup
j'allais dire la
voir dans ce rôle-là, j'ai trouvé ça vraiment super chouette, quoi.
Colman, c'est la réussite de la série parce que elle est éblouissante et qu'elle réussit à travers toute la médiocrité de la série à briller. Je suis d'accord. Elle, j'allais le mentionner juste après. Ouais.
Mais oui, du coup, effectivement, il y a pas grand chose à en tirer. En fait, les scènes qui sont données sont, il y a pas trop d'opportunités pour démontrer trop quoi que ce soit, quoi. Malheureusement.
Pire série de pire production Marvel.
Oui. Pire production en tout court. Ouais.
Ouais. Bon. Pire production MCU. Je sais pas s'il y aurait pire dans les productions Fox. Peut-être.
Mais en tout cas, il y aurait débat. Ouais. Mais oui.
Genre Dark Phoenix ou ce genre de choses. Est-ce que c'est pire? C'est pas sûr. Bon, partie spoiler, partez si vous n'avez pas vu, enfin même partez pas, vous en foutez, franchement, cette série, c'est la première fois que je dis, il n'y a rien à en tirer, c'est même pas la peine de la regarder, ça n'a aucun intérêt, ne regardez pas, voilà, et vous pouvez écouter la partie spoiler, ça vous évitera de perdre 5 heures de votre temps. Donc, partie spoiler, par où commencer?
On peut démarrer par le premier, on va dire, élément un petit peu majeur de la série, c'est la mort du coup de...
De Hill
Ouais, c'est ça, de Maria Hill.
Mais quelle honte. En fait,
et je pense que c'est le truc le plus honteux en fait, de la série. C'est-à-dire que t'as un personnage qui a... c'est pas un personnage super important du MCU, mais c'est un personnage qui était là depuis un petit moment et qui avait aussi, voilà, les gens ont de la sympathie pour ce personnage. Il y a eu pas mal de moments où elle a quand même un peu brillé aux côtés de Fury. On sait que c'est un agent super doué, super vraiment machin. Et effectivement, la faire partir de cette manière-là du MCU, j'ai trouvé ça vraiment assez irrespectueux, à la fois du personnage puis de son audience. Et surtout dans un trope ultra classique où on va juste, c'est le trope qu'on appelle ça la femme dans le frigo, qui consiste à tuer ou incapaciter ou ce qu'on veut une femme dans l'unique intérêt narratif de nourrir l'arc, la vengeance, la colère du héros principal. Et parfois, c'est que ça peut être bien fait, mais ça reste un trope. Et là, en l'occurrence, c'est non seulement le trope est en plein visage, mais en plus, c'est vraiment terriblement mal fichu, quoi. Moi, j'ai rien ressenti du tout, alors que c'est un personnage que j'aime bien, tu vois.
C'est ça le pire. C'est que encore, si c'était un trope auquel on reprocherait d'être un trope, mais que ça fonctionne, et que ça soit frustrant, et que ça nourrisse l'histoire qu'on sacrifie Hill pour nourrir l'histoire de Fury, ça serait moins pire. Mais là, même pas. C'est juste « Oh non, elle est morte, quelle horreur !» Oh là là. Et puis en plus, avec encore le trope de « Ah non, c'était vraiment lui, en fait !» J'ai pensé que c'était Fury, mais c'était le... Et ils s'en sont servis dans les caméras de surveillance pour montrer que c'est lui qui, en fait, a tué Hill. C'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est tellement attendu et classique et mal utilisé que non seulement on perd Maria Hill, ce qui est, enfin, elle est dans les comics, pour ceux qui savent pas, elle devient Maria Hill, c'est une haute responsable du SHIELD évidemment, qui est responsable notamment du Saber, qui est la ou du SWORD, qui est la station de surveillance des aliens qui sont en orbite autour de la Terre. Et c'est ce qu'ils sont en train de construire, visiblement. Enfin, c'est Saber, donc je ne sais pas très bien quelle est la différence entre SWORD et Saber, je ne me souviens plus, mais c'est ce qu'ils sont en train de construire. Ils auraient pu l'utiliser, à moins qu'elle ait voulu partir, qu'elle en ait eu marre, tu vois. Mais ils auraient pu l'utiliser, il y avait des... Pourquoi la tuer ? Pourquoi la tuer ? Ça ne sert à rien. Et là encore, tu sens encore, dans le premier épisode, peut-être la vague intention qu'ils avaient d'en faire un truc dans le style des films d'espionnage de la guerre froide. Tu dis, ah ouais, donc dans ce contexte, peut-être que ça... Mais ça se perd complètement à ce moment, et les épisodes suivants ne rattrapent rien, quoi. On peut mentionner la mort de Talos aussi, qui, alors ce n'est pas un personnage aussi important, mais ça tombe tout autant à plat. Et c'est dans une scène, je saute un petit peu en avant, mais dans une scène dont le ridicule est, je crois, le paroxysme du ridicule, non seulement du MCU, ça serait un truc qui serait dans une petite série, tu vois, ABC classique, de la télé classique, où il y a, oh mon Dieu, le président est pris dans un combat, il a été attaqué par... 4 personnes dans un van, mon Dieu, ouf, heureusement que Nick Fury est arrivé pour le porter sur son dos au milieu de la bataille, tu vois, où tout le monde tire au fusil automatique. Qu'est-ce qui vient faire Fury ? Qu'est-ce qui fait qu'il était vraiment indispensable pour sauver le président ? Il a tiré avec son flingue 4 fois et il a porté le président sur son dos au milieu du combat pour l'amener 4 mètres plus loin. Mais de quoi on parle, putain ? Mais qu'est-ce que c'est que cette scène ? Et tout est comme ça. Et donc, au milieu de ça, Talos meurt héroïquement en sauvant le président, en se transformant en Skrull, et c'est genre, oh merde, non, oh, mon ami de tellement longtemps est mort, Talos. Ouais, bon, allez, on continue notre aventure. Quel...
ouais.
Donc bon, les deux arrangés dans le même...
Oui, c'est ça. Mais en fait, ça, je pense que ça décrit tout simplement la manière dont est écrite globalement la série, quoi. C'est-à-dire que et tous les autres événements sont présentés comme ça. L'autre événement important, c'est justement le fait que Rhodey soit un Skrull. Mm. Et ça, c'est un truc assez c'est amené de la même manière en fait que ces différentes morts. C'est-à-dire que c'était l'opportunité de faire quelque chose ou vraiment d'impliquer Rhodey dans le truc et puis de faire un jeu, je sais pas, de jusqu'au bout. On a des doutes. Est-ce que non, peut-être pas. Oui. Non. C'est, je sais plus si l'épisode commence ou pas. Il est devant son miroir. Pouf. On sait que c'est un Skrull et voilà quoi. Et c'est tout.
Mais ça va plus loin. Rhodey, qui est normalement une personnalité décorée, intelligente, dont l'expertise dans le domaine militaire, pas politique, pourquoi est-ce que Rhodey est le mec qui va donner des conseils de géopolitique au président ? Où est le ministre de l'Extérieur ? Où est le ministre de la Défense ? C'est juste le colonel Rhodes qui vient dire au président... Alors, ouais... C'est ça qui est frustrant, c'est qu'il y a zéro subtilité dans le jeu, évidemment, mais dans l'écriture aussi. Le jour où James Rhodes est remplacé par un Skrull, le Skrull, il joue avec zéro subtilité, il ne prend pas le rôle de Rhodey, il a le visage de Rhodey, et il est le méchant Skrull, et c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure, mais on le voit depuis le début... y compris avec sa relation avec Fury, il n'a plus aucun respect pour Fury, il l'insulte copieusement directement et auprès des autres personnes auxquelles il parle, mais le pire, c'est quand il essaye de convaincre le président de lancer une contre-attaque militaire nucléaire contre la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait déjà ? il y a eu deux personnes qui sont venues... Oui, ils ont attaqué le président, c'est vrai. Personne n'a été foutu de défendre le président. Et alors, on n'explique même pas pourquoi il n'y a pas de super-héros qui vient intervenir. On n'explique même pas pourquoi Rhodes n'a pas, je sais pas, d'amis en armure, ou que lui-même n'a jamais son armure, ou que... aucune explication de rien. Mais les scènes où il y a les options militaires qui sont présentées au président et Rhodes qui essaye de le convaincre parce qu'il est un méchant Skrull que vraiment c'est les Russes les méchants et qu'il faut les attaquer, c'est le niveau zéro de l'écriture et du jeu d'acteur. C'est juste... les scènes, c'est... J'espère maintenant, monsieur le président, qu'il est clair pour vous que la seule option pour nous, c'est de lancer une attaque nucléaire contre la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu deux incidents où deux personnes sont mortes. Ça n'a aucun sens. Monsieur le président, j'espère qu'il est clair pour vous que la seule option, c'est la Troisième Guerre mondiale maintenant. Et il y a genre une générale qui explique « Je ne pense pas que ça soit, voilà, nous avons telle et telle option et telle et telle option. » Et Rhodes à côté qui dit « Général, vous êtes vraiment incapable de gérer cette situation. Laissez-moi parler au président. Monsieur le président, j'espère qu'il est clair pour vous. » Il le répète genre trois fois. C'est un échec.
Ouais. Et comme tu le disais, c'est-à-dire que en fait, tout ça, même admettons, hein, la tentative de convaincre le président qu'il faut machin, etc., je veux dire, ça aurait pu être bien écrit. Les mêmes arguments, tout ce que tu veux, ça peut être bien écrit et puis bien amené. Mais en fait, tout ça, tous les événements, tout ce que tu disais là, c'est écrit. Moi, ça m'a fait penser, en fait, tu sais, un résumé de l'histoire, c'est une fiche Wikipédia qui te décrirait en fait chaque étape, quoi. Alors voilà, ils font ça, machin meurt, ils sont attaqués par les Russes. Du coup, Rhodes essaye de convaincre qu'il faut attaquer avec l'arme nucléaire. Enfin, tu vois, c'est vraiment et en fait tout, c'est-à-dire que le scénario en lui-même, le global, pose pas forcément de gros problèmes, mais c'est à chaque fois, c'est l'écriture et la façon dont, à la fois dont c'est écrit, dont les dialogues sont écrits et dont c'est filmé, qui rendent le truc entre honteux et inepte systématiquement à chaque scène, quoi.
Je dirais que il aurait été possible de créer une histoire où il y ait une sorte de génie stratégique. Géostratégique, géopolitique, qui pousse les dominos. Ils disent, j'en sais rien moi, on va influencer politiquement la Pologne pour qu'elle tire vers la droite et qu'elle commence à flirter avec la Russie, et du coup la Russie pousse la Pologne à, j'en sais rien moi, je dis n'importe quoi, mais envahir un voisin, et donc le voisin répond mais il fait partie de l'OTAN, et donc l'OTAN est contraint de au moins envoyer des troupes à la frontière, et donc machin, et donc tu sens que la tension est DEFCON 2, et donc machin.
Oui, c'est ça.
Mais rien de tout ça, c'est juste « Oh, il y a un groupe de terroristes qui dit qu'ils sont américains, qui a posé une bombe à Moscou, et 200 personnes ont été blessées. » Mais, enfin, c'est les quoi ? C'est les American Boys qui sont américains et qui ont dit qu'ils étaient américains. Mais, enfin, c'est... Et pareil, le groupe, c'est quoi ? L'attaque de la Russie, c'est quoi ? C'est vraiment ce groupe de deux voitures pleines de gens avec des flingues qui réussissent, on ne sait pas comment, à se mettre sur le chemin du convoi du président et qui tirent dessus. Et ça, c'est la Russie. Ça, c'est l'attaque géniale de Gravik qui va réussir par cette action disruptive à convaincre le président de lancer une attaque nucléaire. Tu vois, c'est même pas que c'est résumé un truc genre enjeu géopolitique important. C'est un truc lamentable et minable qui est mal fait et mal résumé. Donc...
Et du coup, ce qui rajoute au ridicule, c'est aussi le souci de Scope. C'est-à-dire qu'ils disent à plusieurs fois qu'ils sont des millions de Skrulls.
Ouais, il y a un million.
On voit, Ouais, c'est ça, 1 million. On voit Rudy qui est un Skrull et qui essaye de manipuler le président, mais ils auraient très bien pu faire en sorte qu'ils soient plusieurs Skrull, tu vois, à dire oui, à nourrir leurs arguments et dire oui, c'est vrai, il a raison, Rudy. Mmh. Tu vois, enfin, jouer à un jeu, justement, de manipulation.
Un truc d'échec où tu places toutes tes ça, pièces
vu,
pour
vu,
que ça soit...
Vu qu'il est à sa position, Rudy, il aurait pu embaucher, tu vois, d'autres Skrull pour venir... nourrir l'équipe du président, l'entourage, etc. Et puis petit à petit lui faire des choses, quoi. Mais non, c'est vraiment tout ce qui pouvait être fait, en fait, et soit fait de manière ridicule, paresseuse. Et,
imagine.
Et du coup, c'est frustrant, quoi.
Imagine le monde d'aujourd'hui où il y a une race d'aliens qui peut changer de forme, comme on dit shapeshifter en français, des shapeshifters qui vivent.
Des métamorphes.
Des quoi?
Des métamorphes, je sais
ouais,
pas.
Ouais, des métamorphes qui peuvent qui veulent influencer le l'échiquier politique mondial. Imagine tout ce qu'il est possible de faire. Les jeux politique, même pas si tu remplaces le président ou si tu remplaces des personnalités politiques dans le monde qui existe, quoi, où tu peux faire des... j'en sais rien, moi, un sénateur montant aux États-Unis, tu peux avoir des personnalités politiques dans l'UE, tu peux avoir, tu vois, la Lituanie qui asticote du côté de l'Est, j'en sais rien, tu peux faire 1000 trucs. Et ils n'ont rien fait de tout ça. Et ou même au niveau, parce que si on parle des Américains qui connaissent que les États-Unis, effectivement, dans le cabinet du président... tu aurais pu avoir plusieurs personnes qui jouent pour pousser, et puis des gens qui jouent de l'autre côté aussi, de manière intelligente, qui comprennent un petit peu que y a, tu sais pas que c'est des Skrulls, mais tu sais que c'est des faucons qui essayent de provoquer la guerre pour des intérêts, je sais rien, du complexe militaro-industriel, ou genre... Il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de tout ça. Et le... Alors, il y a deux trucs qui restent au niveau des Skrulls, avant qu'on parle d'autre chose, parce que j'en peux plus. D'une part, il y a le ridicule des Skrulls, et on peut parler du développement du personnage de Nick Fury dans une seconde, mais très vite, on peut évacuer aussi le fait que à aucun moment, un Skrull, tu lui tires dans la jambe, bah, tu vois que c'est un Skrull. Voilà, c'est fini. Donc si tu sais que c'est un Skrull, l'enjeu est terminé. Nick Fury, à plusieurs reprises, il est coincé dans un... je sais plus, dans l'hôpital, et il a un Skrull en joue. En l'occurrence, il avait Rhodey en joue, et il y a plusieurs personnes qui ont des flingues sur lui. Il peut dire à un moment au mec, alors, ce n'est pas Rhodey, s'il vous plaît, je vais ne tirez pas, je vais vous prouver que c'est pas lui, je vais lui tirer dans la jambe, et vous allez voir, il va se transformer en alien. C'est Nick Fury. Il y a des Avengers partout, il y a des aliens, il y a des statues géantes qui sortent de la mer. Tu vois, il y a des trucs bizarres qui pourraient faire penser aux agents qui l'ont en joue que peut-être, ouais, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer, quoi. Et il peut dire, l'avenir du monde est en jeu, je suis Nick Fury, vous pouvez me faire confiance 2 secondes, je vais pas le tuer. Alors, j'en sais rien, tu vois, où à un moment, tu trouves un moyen de prouver qu'un Skrull est un Skrull. Si tu sais que c'est un Skrull, c'est terminé. Le jeu est terminé, quoi. C'est pour ça qu'il faut jouer autour. Et au-delà de ça, les Skrulls qui vivent leur vie de Skrull, Freedom in my own skin, qui se sont retrouvés dans leur compound à Tchernobyl parce qu'ils ne sont pas sensibles aux radiations, ils ne sont jamais en forme de Skrull. Ils sont en forme humaine, ils parlent anglais... Ils sont, enfin leur culture. Ouais. Et pourquoi? Parce que ça aurait coûté cher peut-être, et également parce que c'est ridicule d'avoir les Skrulls qui parlent entre eux dans des scènes. Enfin, ça marche pas, quoi. Ça marche juste pas.
Déjà qu'ils ont pas trouvé des Russes, des formes d'humains qui ressemblent à des Russes. Tu vois déjà, donc voilà, c'est déjà beaucoup demandé de.
Ouais. Et donc, dans leur super, comment dire, dans leur refuge, où ils peuvent enfin être eux-mêmes, vivre leur culture et s'identifier à ce qu'ils sont, eh ben, ils sont tous en forme d'humain tout le temps. Mais ça, c'est pas possible. Écris autre chose. J'en sais rien. Fais autre chose. Tu peux pas juste faire ça. Et je donnerai le coup de grâce à la fin, mais Ouais, c'est... Enfin, j'imagine que tu es de mon avis.
Bah, ouais, il faudrait que... Si on veut finir de... Si on veut finir de dire ce qu'on a à dire sur les Skrulls, je pense qu'il faut évoquer rapidement déjà la, du coup, la femme de Fury, qui, bon, encore une fois, s'est amenée assez maladroitement, mais j'ai trouvé ce personnage-là assez intéressant, et puis le concept, on va dire, de cette relation assez intéressante. Mais bon, ils n'en font pas grand-chose. Et de la fille de Talos, quoi, dont on n'a pas du tout parlé depuis le début.
La pauvre Emilia Clarke, putain, quoi, ça.
Alors, ouais, moi, je suis pas fan du tout.
Non, moi non plus, mais personne ne m'aime ça, tu vois. Elle est...
et je trouve que globalement, ça ressemble aux autres productions qu'elle a, dans lesquelles elle a pu jouer. Mais oui, c'est dommage parce qu'effectivement, on a quand même un certain casting, on a un casting quand même assez important et puis c'est pas intéressant, je suis même pas sûr. Enfin, je me demande, hein, à quel point ce casting a attiré des gens, tu vois, sur la série, qui sont pas forcément derrière tout le MCU, tu vois, une Emilia Clarke, par exemple. Est-ce que ça attire des gens? Aucune idée.
Pas, non mais je pense aussi qu'elle, elle est, tu vois, elle est pas sa carrière est pas en train de décoller de manière incroyable. Hein. Après Game of Thrones, bon, bah, elle a rien fait, et je pense que c'était pas son premier choix, ce rôle, tu vois, dans ses Dreamcast.
En tout cas, d'un point de vue, alors on ne sait pas trop encore où va aller le MCU à l'avenir, parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent en ce moment sur la viabilité de ces projets-là. Mais en tout cas, elle s'en tire quand même avec un. Elle finit la série, avec potentiellement des retours plus tard, avec tous les pouvoirs du MCU en un seul personnage. Ouais. Bon, elle a peut-être réussi à mettre un petit peu de sûreté sur sa présence, je ne sais pas.
Oui, pardon, t'as disparu.
Non, j'allais dire, en tout cas, maintenant, elle est là et
elle
fait partie des personnages un peu puissants qui est censé exister, du coup, dans le MCU. Je crois comprendre que maintenant, elle rejoint une équipe anglaise qui va être chapeautée par Coleman. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils vont avec ça, sachant qu'ils ont déjà pas mal de choses de préparer partout ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils continuent de poser des briques pour de nouvelles choses, alors qu'il y a tellement de choses qui sont en attente. Je ne sais même plus les compter, les projets qui t'introduisent...
Au bout d'un moment, il faut en faire quelque chose, quoi. Ça suffit de poser.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je dirais, le truc qui était pas trop mal, c'est dans le dernier épisode, quand on se rend compte que c'est elle et pas Fury qui est allée à Tchernobyl. Pourquoi pas? Ok. Le combat entre les deux, je l'ai trouvé assez lamentable. L'idée, pourquoi pas? Et le Super Skrull, normalement, traditionnellement, c'est un ennemi des Fantastic Four et il a les pouvoirs des 4 Fantastiques. À la limite, les pouvoirs des 4 Fantastiques, pourquoi pas. Là, les pouvoirs de tous les Avengers. Alors, peut-être qu'elle se fatigue très vite, elle peut le faire que 2 minutes, mais enfin, de tous les ennemis de la bataille de Endgame, bon, ils trouveront un moyen de faire en sorte que ça soit pas trop puissant, mais ok.
Je crois que dans le comics, il a les pouvoirs, mais ils sont pas aussi... Ils sont pas aussi forts que les originaux, tu vois. Donc...
Ouais. Mais bon, pourquoi pas, c'était un moyen pas con d'amener le Super Skrull. Le combat en lui-même entre les deux est pourri, lamentable, aucun intérêt, et la manière dont elle meurt, ça m'énerve beaucoup, ce genre de combat où chacun tape aussi fort que possible avec des coups et des épées et des machins et des lasers, et la manière dont il gagne, c'est que finalement, ah bah, il donne un autre coup d'épée, et tout à coup, celui-là, pour une raison qu'on ignore, bah, il fonctionne. Ok, bon, ok. Donc, voilà, il y a ça, et je conclurai avec la pire scène de l'histoire du MCU, je pense, et la pire scène de l'histoire de Samuel L. Jackson, pourtant, a pas fait que des bangers, c'est la scène avec sa femme en forme de Skrull, où, je dis depuis tout à l'heure, ça marche pas, quand il roule une pelle, c'est ridicule à un point qui m'a fait cringer physiquement et audiblement. Tu vois, je pense qu'à un moment, j'ai dû dire, quand ça se passe, c'est genre « Mais non !» Tu vois, tu regardes ta télé et tu peux pas, quoi. C'est trop cringe, ça te fait mal physiquement. Et Dieu sait que je comprends l'idée de je veux être moi-même et je veux pouvoir vivre tel que je suis. Et... Mais quand ça marche pas, quand c'est ridicule, tu peux pas forcer, quoi. Moi, j'ai trouvé ça... Enfin, je sais pas si toi, ça t'a autant choqué.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Mais ah après, oui, t'as trouvé ça bien
le... Bah, pas... ni bien, ni pas bien, quoi. Je te rejoins que la... l'apparence des Skrulls fait un petit peu plastoc, quoi.
Mais ouais, t'as l'impression qu'il embrasse une une prothèse taille géante, quoi.
Mais en tout cas sur le concept, non, ça m'a pas le c'est pas le baiser si tu veux qui m'a procuré soit quoi. C'est
ouais.
C'est la fin. C'était enfin la fin. Donc déjà enfin je me dis
la délivrance.
Il y aura pas d'autres trucs que la semaine prochaine.
Ouais.
Et voilà, et puis du coup, moi, c'est enfin, comme ce que je disais tout à l'heure, je sais plus du tout en fait où vraiment comment me positionner dans le MCU parce que bah, là, ça fait 18 projets ou 20 projets, je sais plus, sur la phase 4 où rien n'avance et on nous bombarde de choses de moins en moins bien à chaque itération. Et puis bah, avec les histoires bah, de ce qui se passe côté Disney en termes de production et du coup je sais même pas ce qui a un intérêt ou pas dans cette série quoi. J'ai parlé de l'équipe anglaise, est-ce que ça va avoir un intérêt, le fait que est-ce qu'on va revoir Fury dans son vaisseau machin, je sais pas, enfin je sais pas dire, tu sais, parce que ça, tu disais ça quand on est passé dans la partie spoiler en disant ne regardez pas, ça vaut pas le coup. Ça, évidemment, je suis déjà assez d'accord. Mais tu sais, en général, on pouvait dire bon, ce truc-là, c'est pas terrible, mais c'est quand même chouette à regarder pour tel et tel, tu sais, pour tel et tel truc qui va être important. Là, je suis incapable de dire s'il y a vraiment un truc important là-dedans, quoi. En fait, en termes même à se dire est-ce qu'il va y avoir un film où on se dira. Ok, tu peux aller le voir, par contre, il faut savoir que, et puis lui dire, et puis le spoiler, tel et tel élément, tu vois. Je sais même pas si on va arriver à ce moment-là.
Juste le super Skrull, à la limite, que le super Skrull est. Ou que Fury est marié à une Skrull, tu vois.
Ouais.
Mais même, il tease pendant toute la série le fait que Fury a changé après le blip.
Oui, bon, ouais.
Et ça donne rien, ça va nulle part. Alors que c'est une idée intéressante. Pourquoi est-ce qu'il est devenu un reclus? Pourquoi est-ce qu'il s'est barré sur sa station et qu'il ne veut pas redescendre? C'est une idée intéressante. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu te souviens de ce que c'était? Moi, je ne m'en souviens même pas. C'était rien, c'est juste qu'il s'est dit « Oh, mais je ne peux peut-être pas sauver la
Terre. » Il a déprimé après le blip.
C'est ça.
Oui.
C'était juste ça.
Oui, c'est ça, il s'est rendu compte qu'il était impuissant. Et... Mais du coup, effectivement, ils disent hein, qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même, etc. Mais à aucun moment dans la série, tu as vraiment l'impression qu'il a un vrai problème, quoi. Je veux dire, il continue à faire ses trucs de Fury, il va où il veut, quand il veut, machin, enfin... Tu le sens pas particulièrement en faiblesse, en fait. Il y a des moments où... Il y a des péripéties d'action où il est mis à mal, entre guillemets, mais c'est tout, quoi. Et c'est un problème classique de show dont tel, quoi. C'est-à-dire qu'ils te disent des choses, mais en fait, à l'image... ou dans les relations, ou dans les dialogues, ça transparaît jamais, en fait.
Il y a un changement depuis quelques mois à la tête de Disney. Bob Iger est revenu, et ce qu'on entend, c'est que le précédent président de Disney voulait de la quantité, surtout pour Disney+, et clairement, ça a influencé la qualité des produits. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure Kevin Feige était... impliqué dans le truc et pour ou contre cette orientation. Moi, je pense qu'il y a des problèmes dans la phase 4 et la phase 5 qui vont au-delà de cette simple question de quantité plutôt que qualité, même si la qualité est clairement très basse. Mais on pourrait s'accrocher à un vague espoir qu'avec le retour de Iger et la réorientation, je pense que ça fait quoi, 6 mois, 8 mois qu'il est là, il est là pour 2 ans, et ben peut-être que ça pourrait donner... Au minimum, ce qui semble se profiler, c'est moins de quantité pour, idéalement, avoir plus de qualité. Donc peut-être que avec la phase 6, ça pourrait commencer à se redresser, quoi.
Au-delà de cette histoire de quantité-qualité, il y a aussi le fait que, du coup, sous l'ancien CEO, c'était le début de Disney+, et cette idée que c'est le truc sur lequel il faut tout miser, et c'est pour ça qu'on arrive en bout de course avec des séries Marvel, avec des budgets complètement délirants. Et du coup, avec le changement de CEO, et même s'il n'y avait pas eu de changement de CEO, il y a aussi le constat de qu'est-ce que ces séries nous rapportent, est-ce qu'elles nous rapportent vraiment, est-ce que Disney Plus fait vraiment de l'argent, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt pas le cas, que j'ai l'impression qu'il y a quand même une forte réorientation de la stratégie sur ce côté-là, et je suppose que les grosses séries. Marvel, on en verra probablement beaucoup, beaucoup moins. J'ai l'impression qu'il y a un refocus côté cinéma, etc.
Ouais.
Donc ça, on verra aussi. Puis de toute façon, pour le moment, il y a des acteurs et des scénaristes en grève.
Oui, c'est ça. Ça va prendre le temps de faire une petite pause et de réfléchir à leur vie
ouais.
chez Disney. Mais tu vois, une ou deux séries par an, avec deux ou trois films par an, ça suffit. C'est très bien. Et c'est déjà beaucoup. Donc,
c'est déjà beaucoup, ouais.
Ouais. Tu vois, deux, trois films et et une série, ou deux films et une série, ça suffit, quoi. Bon, bref. Voilà pour Secret Invasion. J'espère que la suite se passera bien. La suite, c'est quoi ? Au niveau Marvel, c'est Loki, qui commence en octobre. Donc, on a encore un petit peu de temps. On est à un mois et demi, Loki saison 2. Je sais pas ce que j'attends de Loki saison 2. Moi, je crains que ça soit pas vraiment. Ça peut pas être pire que Secret Invasion. Donc, c'est déjà ça. Mais
moi, j'attends beaucoup. Hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ça. J'ai beaucoup aimé la première saison.
C'est sympa, mais
même si on a des critiques, avec plus le temps passe, plus j'ai de la tendresse quand même sur cette série-là. Et je trouve qu'il y a toute une ambiance que je trouve vraiment cool. Et il y a eu un trailer là récemment. Moi, je l'ai pas regardé parce que du coup, quand j'ai envie de voir un truc, j'évite. Et du coup, beaucoup d'espoir là-dessus. Et puis après, après Loki, ça va être un mois plus tard, c'est The Marvels.
C'est ça.
Où là, un peu d'espoir et beaucoup de crainte.
Ouais, ça, voilà. je suis très, très inquiet. Très, très inquiet. C'est... Oui, comme tu l'as dit, un peu d'espoir, beaucoup de crainte. Il y a un énorme potentiel de cassage de gueule. Il y a un énorme potentiel de pas prendre les choses au sérieux. Même quand on fait de l'humour, il est possible de faire les choses bien. Là, je crains vraiment le...
Ouais, surtout que je crois que c'est la réalisatrice qui s'est exprimée en disant « Vous verrez, c'est très différent du reste du MCU, il y a beaucoup de blagues. »
Ouais, putain. C'est très différent du reste du MCU, il y a beaucoup de blagues. C'est vraiment le commentaire. Le problème, c'est que t'as l'impression que c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le MCU pour dire ça, tu vois.
Ah bah ouais. Peut-être qu'elle a vu que c'est Secret Invasion, hein, donc.
En plus, c'est c'est une réalisatrice de films indépendants, films d'horreur.
Ouais.
Nia DaCosta, peut-être, hein, on ne sait jamais, mais oui, beaucoup de.
Moi, je garde pas mal d'espoir. Après, voilà, ce qui me rend inquiet, c'est surtout tout ce qu'on a vu du MCU récemment, en fait. En soi, moi, la bande-annonce, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai trouvé ça chouette.
Ouais.
Et voilà, j'ai envie.
Ça peut être léger et sympa. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on va avoir Monica Rambeau, qu'on a vu la dernière fois, enfin une seule fois dans WandaVision, et que j'avais pas adoré son introduction dans le truc, le personnage, pourquoi pas. Et on a vu alors Kamala Khan qui est sympa, mais déjà la confronter à Miss Marvel, à Captain Marvel, je veux dire. Je trouve que ça va vite et que je sais pas, il brûle les étapes.
J'aurais aimé voir pour le coup un film Kamala Khan.
C'est ça.
Ou l'avoir évolué un peu plus, justement, dans son coin, quoi. Lui, c'est le temps de devenir cette super héroïne sans tout de suite la jeter dans une relation de, tu sais, façon Spider-Man, Iron Man.
Exactement. Et ce qui m'inquiète, en fait, on est presque, j'ai l'impression, à mi-chemin entre le MCU bien fait, avec la phase 1 où les choses prennent leur temps pour être introduites, pour arriver aux Avengers, et un Batman versus Superman, où tout à coup, là, on a eu un film, et puis juste après, hop, allez, il faut mettre tout le monde. Et c'est l'un des sins, des péchés du MCU depuis la fin de... depuis un moment, depuis la phase 3, on va dire, mais où c'est très mal fait depuis la phase 4 et 5, c'est que dans chaque projet, dans chaque film, il faut mettre autant de super-héros que possible, parce que c'est ce truc interconnecté et c'est cool. Et du coup, là, on est un petit peu à mi-chemin entre ces deux trucs, parce que deux personnages qui ont une introduction, on va dire, rapide et pas forcément satisfaisante, même j'inclus Kamala Khan là-dedans, bah, on les met dans des films genre super-héroïques d'équipe, quoi. Parce que là, les Marvels, bah, t'en as trois, c'est déjà une moitié d'Avengers. Donc... Et en plus, même j'inclus là-dedans Captain Marvel, dont on a eu un film qui était sympathique, mais qui était vraiment l'introduction, et après, on l'a à peine aperçu 10 secondes dans des films d'autres personnes. Donc, que son deuxième film est déjà... Elle n'a pas eu le temps de s'établir, et on y amène déjà plein d'autres personnages, bah, j'en suis... Je ne sais pas. Je suis pas... Bon, bref, ça, c'est pour les projets Marvel. Des petits trucs qu'on va mentionner rapidement. On a entendu beaucoup de bien de Tortue Ninja Mutant Mayhem. En français, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Teenage Years en français, enfin en anglais, même si c'est un titre français. Ok, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas un connaisseur des Tortue Ninja. Je crois que je n'ai jamais regardé de trucs Tortue Ninja. Mais il semblerait que ça soit un film d'animation qui vaut vraiment le coup. Peut-être que j'y jetterai un coup d'œil, possiblement. Je trouve ça con, les Tortue Ninja, en fait. Mais bon, tu vois, des tortues qui sont des ninjas, je les aime pas vraiment.
C'est né comme une parodie de comics. Mm. Et cette partie-là de l'origine du comics a quand même pas mal disparu. Moi, j'ai grandi avec les Tortues Ninja. Donc c'est un truc que je regardais quand j'étais jeune, quoi. J'avais les jouets, machin. Et donc, voilà, j'ai quand même une certaine affection. Voilà, moi, je suis super hypé par ce film-là depuis l'annonce. Parce que j'ai vu les je trouve les visuels vraiment sublimes. On est vraiment dans l'après.
Ça fait pas redite avec Spider-Man, justement.
Bah justement, ça, on arrive dans l'après Spider-Man, mais c'est assez différent. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes techniques de dessin, de peinture sur
non,
les décors.
Non, mais c'est clairement.
Etc. Mais on est dans cet après où les équipes artistiques, on leur donne un peu plus de latitude sur le style visuel et de se permettre des choses très stylisées. Mmh. Et du coup, moi, là, je suis dans ma meilleure timeline possible pour l'animation. et je trouve ces projets-là sublimes, quoi. Donc, juste pour le visuel, j'avais super envie d'aller le voir. J'avais regardé la première bande-annonce où bah, ça avait l'air sympa, sans plus. Mais en tout cas, je voulais au moins y aller pour la partie animation et visuel. Et puis, en plus, maintenant, on sait que c'est... Ça a l'air d'être un bon truc, donc je vais essayer de trouver du temps pour y aller, ce qui est pas gagné, mais je vais vraiment, j'ai vraiment très envie de le voir au cinéma, quoi.
D'accord. Il y a aussi, oui moi aussi, j'essaierai. On m'a convaincu sur le Discord en fait qu'il faudrait que je lui donne sa chance. Je vais peut-être aussi donner sa chance à Blue Beetle, le film du DCEU, peut-être le dernier avant les vrais changements qui vont arriver avec le DCEU de James Gunn. Vous le savez, j'ai pas dans mon cœur vraiment le DCEU, mais j'en ai entendu des bonnes choses de Blue Beetle. Alors qu'après, je connais même pas le super-héros. J'avais vu une bande-annonce, ça a fait un petit peu Iron Man, mais bon, pourquoi pas. Je vais aller le voir, je pense. Et si c'est super bien, je te dirais qu'il faut que tu ailles le voir et qu'il faut qu'on en parle dans un Super Laser Punch à venir.
Oui, je doute pas qu'on a vu pire au MCU. Mmh. Maintenant, effectivement, ça ressemble un peu quand même à tous les trucs de super-héros, sans donner de perspective de suivre quelque chose de global, etc., qui fait partie des choses que j'aime bien dans le MCU et qui justement me fait aller voir des trucs beaucoup moins bien, mais en sortant, en n'étant pas complètement triste parce que du coup, j'ai vu tel personnage qui a évolué, machin. Bah ça, le DCU ne le propose plus du tout. Est-ce qu'ils l'ont déjà proposé? On peut en discuter. Mais en tout cas, donc voilà. Donc c'est pour ça que pas du... vraiment, j'ai même pas regardé. J'ai vu la bande-annonce et puis j'ai oublié aussitôt. Ouais. Voilà. Faut vraiment que
quelqu'un
dise.
Faudrait vraiment que je te dise que ça soit.
Ouais,
c'est ça. Ouais. C'est incroyable.
Et encore, Et encore, je me dirais, oh, peut-être en VOD, mais. Ouais. mais voilà.
Ouais.
Black Adam. Black Adam et tout ça, moi je les ai toujours vus, quoi. The Flash, qui je crois qu'il. Je sais pas s'il est sorti en VOD, peut-être pas. Mais en tout cas, Black Adam et.
On n'a pas parlé de The Flash.
Shazam 2.
On a parlé de The Flash ?
Toi, tu as parlé de The Flash.
Ah oui, oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. Ouais, pour être clair, Blue Beetle, c'est pas que j'ai une envie absolument folle d'aller le voir, c'est juste qu'il va passer dans la petite ville à côté de chez moi où il y a un cinéma, et donc je me dis, bon, bah, c'est l'occasion d'aller au ciné, j'en ai pas beaucoup des occasions d'aller au ciné, donc c'est autant pour ça que... Et aussi, c'est une soirée tranquille où je vais aller me faire un truc pour moi, tu vois. Donc voilà, c'est aussi une excuse pour faire ça. Le dernier truc qu'on voulait évoquer, donc on en parlera peut-être de Blue Beetle à un moment, le dernier truc qu'on voulait évoquer, c'est Scott Pilgrim Takes Off, la série Scott Pilgrim, qui arrive sur Netflix, c'est en novembre, je crois, et qui reprend un petit peu, là encore, on en parlait dans le Discord, et c'est, je ne sais plus qui disait, c'est un petit peu les Avengers de Scott Pilgrim, parce qu'il y a tous les acteurs qui reprennent, c'est de l'animation, donc les acteurs reprennent leur rôle pour la voix. Il y a l'auteur du comics, il y a le réalisateur du film, enfin c'est vraiment genre tout le monde est là. Mmh. Et alors personnellement, je vais te donner la parole parce que je suis plus intéressé par ce que tu auras à dire, mais moi personnellement ce que j'espère, c'est qu'il va réussir à faire dans ce projet vidéo ce que le film n'avait pas réussi, c'est-à-dire reprendre vraiment toute l'essence du comics, là où le film avait repris le côté... fun, geek, jeux vidéo du comics, mais pas tout le reste qui était pour moi la vraie force du comics, c'est-à-dire le côté un petit peu onirique, délirant, psychologique, qui n'était pas vraiment présent donc, dans le film. Donc j'espère que la série y arrivera. Mais toi, tu disais que tu as vraiment beaucoup d'affection pour le film aussi.
Ouais. Ouais, alors bah, du coup, juste pour revenir, même l'animation hein, de la série elle a l'air vraiment au top. Le réalisateur est un des mecs qui a fait un des Star Wars Vision. Donc c'est vraiment très très joli et ça a l'air de super bien bouger. Oui, donc sur Scott Pilgrim, moi effectivement j'ai découvert. Alors je connais depuis assez longtemps le comics. De réputation et puis en tant que fan d'Edgar Wright quand le film est sorti c'est un truc que j'ai voulu vraiment voir et c'est un truc qui m'a énormément marqué donc on en parlait un petit peu juste hier ou avant-hier mais voilà pour moi c'est un film vraiment très très particulier parce que il capture une essence un peu générationnelle que moi je ressens. En tout cas, que je ressentais à l'époque où j'ai vu le film, hein, sur justement cette impression d'être compris en fait. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ça va à la fois des thématiques abordées, de la façon de mettre en image, parce que c'est quand même un film qui est très très joli sur la partie. Bah, tu parlais d'onirisme et de trucs psychologiques, c'est que on est complètement dans la tête de Scott Pilgrim et il y a tout. Ces éléments du jeu vidéo, les onomatopées, les machins, qui viennent nourrir l'image. Et c'est un truc qui m'avait vraiment, vraiment très, très, très fortement impressionné. Et il y a ce mood un peu, ce spleen, en tout cas, que je ressens et qui me touche beaucoup dans ce film-là. Mais c'est un truc vraiment, quand je dis que c'est un truc qui m'a marqué, c'est vraiment. Je ne sais pas l'expliquer de manière, on va dire, super, tu sais, objective, parce que. Quand on fait l'analyse du film, c'est un film qui a beaucoup de problèmes. C'est un film, voilà, ils enchaînent les combats. Ça, c'est très procédural, quoi. On enchaîne les combats et puis, en plus, la moralité de Scott est quand même. Tu diras si je me trompe, mais je pense que c'est aussi le propos du comic, c'est-à-dire que c'est pas un mec cool, Scott. Et je trouvais que cette partie-là n'était pas forcément super mise en avant dans le film. Parce qu'il a une relation avec les femmes. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, il a une relation avec les femmes qui est quand même, un peu toxique. J'ai l'impression que c'est quand même pointé un peu timidement dans le film. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette volonté dans l'œuvre de pointer ça, mais je ne sais pas si c'est le cas. Hein. je sais pas si t'as
je t'avoue que moi, je l'ai lu à une époque où j'étais beaucoup moins in tune avec ce genre de problématique, peut-être. Mais ce que moi, disons qu'il est très clair que Scott Pilgrim n'est pas bien dans sa tête et que sa relation avec les femmes, avec lui-même, avec ses amis, et il y a beaucoup de trucs qui sont fucked up et peut-être que ça se ressent plus dans le comics, c'est son parcours qui à travers tous ces problèmes. Donc, je ne sais pas si j'ai autant noté les problèmes de toxicité spécifiques que tu pointes du doigt, mais clairement, oui, il y a dans cette histoire Scott Pilgrim qui exemplifie une génération et ses traumatismes spécifiques et ses problèmes spécifiques. Et je suis content que tu dises que ça, c'est ça qui t'a... En fait, tout ce que tu dis sur le film, ça me fait plaisir parce que c'est ce que moi, j'avais ressenti en lisant le comic à l'époque. Et c'est ce que je craignais qu'on n'ait pas dans le film, qui était trop occulté dans le film, tu vois.
Et donc, d'accord.
Ça date, hein, Scott Pilgrim, c'est presque il y a 20 ans. Donc, attends, c'est sorti quand, Scott Pilgrim ? Que je vérifie.
Alors, c'est sorti en 2010.
Non.
Non ? Enfin, je m'en souviens.
Le film 2010, que... peut-être.
Oui, le film, toi, tu parles du comics.
Oui, c'est ça. 2004, le premier volume de Scott Pilgrim en comics, c'est 2004. Donc, c'est il y a presque 20 ans. Et moi, je l'ai lu pas longtemps après, la BD, et ça a été une révélation parce que je suis un petit peu plus âgé que toi, mais je me sens quand même dans ce que décrit cette BD, et ça parle, c'était comme exactement ce que tu disais, ça décrivait ou ça me faisait ressentir ce que je ressentais moi, et ça a été genre j'avais l'impression de lire le livre, pas de ma vie, mais de ma génération un petit peu, ou de la génération, moi je suis un petit peu coincé entre la génération d'avant et la génération d'après, et cette génération à laquelle je m'identifie plus, qui est un petit peu, on va dire, les pré-milléniales, quoi, quelque chose comme ça. Donc, je suis hyper content que de t'entendre dire ça du film. J'espère que la série le fera aussi bien. Et je serais curieux de savoir ce que tu ressens en lisant le comic, ouais. Parce que c'est vraiment encore plus psychologique. C'est cet aspect, mais encore plus psychologique. Il y a des trucs... psychédéliques qui ne sont pas vraiment expliqués, qui sont naturellement intégrés dans le monde de Scott Pilgrim et qui fonctionnent hyper bien. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a un peu vieilli, je ne sais pas, il faudrait que je le relise. Est-ce que j'ai quelque part... Je dois l'avoir quelque part encore. Moi, je l'ai en physique, tu vois, Scott Pilgrim. Mais bref, bon, beaucoup d'espoir pour la série animée également.
Ouais, et le projet est vraiment incroyable. Enfin, pour moi, ça me semble invraisemblable d'avoir réussi à récupérer l'intégralité de tout le cast. Mmh. Parce que dans ce cast-là, il y a des gens qui, depuis, sont devenus ultra bankable, quoi. On a du Brie Larson, on a
Chris Evans.
Anna Kendrick. Chris Evans. Enfin, il y a quand même des gens.
Jason
maintenant.
Ouais.
Et du coup, quand j'ai vu le cast machin, enfin, j'étais vraiment un peu hagard, quoi. Je me dis, mais comment ils ont fait, quoi.
Et Michael Cera, on n'a même pas mentionné, mais Scott Pilgrim.
Ouais, Michael Cera, bien sûr.
Je pense qu'il y a, il y a un élément qui est que ça prend pas beaucoup de temps, c'est deux jours d'enregistrement et ça fait des sous faciles, tu vois. Mais je peux tout à fait imaginer aussi que, au-delà du fait que tout le monde est déjà présent, donc tout le monde dit, si machin y va, j'y vais aussi. J'imagine qu'il y a aussi un affect pour le projet de tous ces gens-là qui étaient au début de leur carrière et qui, justement, tu vois, se disent « Oh, on va se retrouver, c'est comme une high school réunion presque, et on va se retrouver ensemble, ça va être sympa de participer au projet. » Je suis sûr qu'ils ont fait des réunions de prod, etc. Donc,
Et même, ils sont même allés jusqu'à récupérer Anna Maguchi, qui est le musicien qui a fait la musique du jeu vidéo Scott Pilgrim vs. The World. Qui est une super BO d'ailleurs et du coup ils sont allés chercher pour habiller le son de la série. Donc c'est lui qui va fournir des sons Donc tu vois, enfin, il y a vraiment une envie, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie super positive autour de ça, de vraiment récupérer un peu tous ceux qui ont participé à, à Scott Pilgrim depuis le début, depuis le créateur, quoi, et de faire revenir tout le monde dans un joyeux truc. Donc j'ai vraiment, c'est vraiment une des petites hypes que j'ai là sur, sur ce qui va arriver sur Netflix. Ouais.
Je dirais que en plus, ça montre à quel point ce comic qui est relativement mineur quand même, comic manga, enfin c'est un peu style manga, mais ce comic qui est mineur dans la pop culture a en fait une importance outsized par rapport à dans la culture par rapport à son succès, quoi. C'est plus qu'un petit, enfin c'est un truc culte, mais qui dépasse un petit peu pour une catégorie de personnes et pour une catégorie de la pop culture. C'est une œuvre majeure. Même si on y pense... En fait, j'ai du mal à mettre les mots dessus, mais je crois qu'on n'y pense pas comme une œuvre majeure, mais qu'en fait, ça en est une parce qu'elle est dans l'inconscient et dans le conscient de tous ceux que ça a influencé. Et ça a influencé une génération. C'est la représentation d'une génération, quoi.
Je pense que ça tient aussi du fait que même si... pas beaucoup, quand je vais dire ça, pas beaucoup de monde l'ont lu ou ont vu le film... Alors, pas beaucoup, des millions de gens, mais en tout cas, comparé à d'autres œuvres un peu plus mainstream. Mais ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont lu, en général, ont adoré, quoi. Ont adoré, et c'est devenu quelque chose d'important pour eux. Et du coup, effectivement, il y a un peu le spectre. Du coup, moi, c'est comme je te disais, Scott Pilgrim, je n'ai jamais lu. Mais ça fait partie des trucs que je connaissais de nom. Plusieurs gens m'ont dit, il faut vraiment que tu lises, etc. Machin, je ne l'avais jamais fait. Mais du coup, ça existe dans l'espace, en plus dans l'espace Internet, où il faut forcément faire des tops des meilleurs comics et et des meilleurs trucs. Et souvent, moi, je suis régulièrement vu Scott Pilgrim apparaître dans ces machins-là. Donc il a une aura, en fait. C'est une aura. Il a une aura qui dépasse, on va dire, son les simples gens qui l'ont lu, ça touche d'autres gens au-delà qui l'ont pas encore lu, qui vont être attirés par la série, etc. Quoi.
C'est il fait partie de cette vague d'indépendants canadiens qui, moi, a complètement illustré mes années, on va dire, 2005-6 à 2012-13-15, qui sont aussi dans la musique. Des trucs comme Broken Social Scene, The Postal Service, Death Cab for Cutie, tu vois, tous ces Canadiens qui ont... Et c'est marrant parce que ces groupes, peut-être que je les associe parce que je les ai découverts et appréciés à la même époque, mais ces groupes sont exactement dans la mouvance culturelle de Scott Pilgrim. C'est l'équivalent musical de ce que Scott Pilgrim fait en BD. Et c'est marrant que ça soit vraiment un truc, un style canadien qui est fonctionné dans le monde entier, quoi, pour cette... Je les aurais pas vu venir, tu vois. Pourquoi est-ce que les Canadiens ont eu autant de succès dans ce domaine spécifique ? C'est intéressant. Il faudrait demander à un sociologue pourquoi ça a fonctionné comme ça. Bon, bref, on a parlé beaucoup de Scott Pilgrim. On le refera, j'espère, en novembre. si on le fait pour chaque... Je ne sais pas si on fera chaque épisode, mais en tout cas, si on en parle vite, c'est que ça nous aura plu. Si on attend janvier, ça sera une mauvaise nouvelle. et puis, il y a Ahsoka aussi qui arrive bientôt, là, dans quelques jours. Donc, peut-être qu'on en parlera aussi.
Oui, comme... On ne l'a pas dit, ouais.
Ouais. Donc, là, c'est... Si c'est génial, on fera tous les deux épisodes, peut-être, on verra. Puis sinon, à la fin de la série.
Oui, ça dépend aussi des durées d'épisodes. Si c'est des gros épisodes, tous les deux épisodes, on pourra le faire.
Et puis
on se laisse le temps de regarder un et on décidera.
Ouais, c'est ça. Merci Johan pour ce long, c'est un super size, méga size, Super Laser Punch. Où peut-on te retrouver ensuite quand l'épisode sera malheureusement fini?
Eh ben, on peut me retrouver on peut se retrouver à plein d'endroits maintenant, tu vois. On peut me retrouver alors sur le Discord évidemment, sur Twitter X comme d'habitude, mais maintenant j'essaye justement de décaler un petit peu mes interactions sociales sur Blue Sky en ce moment.
Ah ah, d'accord.
Donc Johan T sur Blue Sky, je crois bien que c'est ça. mais du coup voilà, j'essaie de m'éloigner petit à petit de ce réseau social qui me Il me rend malheureux, donc voilà, qui me frustre. Et donc, du coup, je rêve de ciel bleu en ce moment, donc je vais voir ailleurs.
Ouais. Pas Mastodon.
J'ai essayé. Promis, j'ai essayé. Mais...
D'accord. Très bien. Pour ma part, c'est NotePatrick sur notepatrick.com. Vous trouverez tous mes liens vers tout ce que je fais. Et bien sûr, le rendez-vous tech pour l'actu tech et le rendez-vous jeu pour l'actu jeu vidéo. Je vous remercie de nous avoir écoutés et nous nous retrouvons bientôt peut-être pour un nouveau Super Laser Punch. J'espère que ça sera plus positif que celui-ci.
J'en suis sûr.
Ça ne peut pas être plus négatif, voilà. Ça serait difficile. Ouais. Merci Johan, à la prochaine.
Allez, ciao.
This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for adventures in rain, shine, mist, or snow. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase.